aurait peut-être voulu chanter plus, hein, pour pouvoir pas seulement se réchauffer le corps, mais se réchauffer l'âme aussi, hein, en chantant à notre Dieu. En tout cas, nous avons bien fait, nous sommes contents de l'avoir fait. Je ne sais pas si vous avez pu lire le texte que je vous ai laissé en lecture hier, dans Matthieu chapitre 10. Peut-être certains d'entre vous ont pu le faire. Alors, on ne prendra pas le temps de tout lire là, mais dans ce chapitre, il est question des 12, Matthieu chapitre 10, des 12, 12 disciples que Jésus envoie avec le pouvoir de chasser, on le voit au verset 1, les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Puis on voit tout ce qu'il choisit, ces 12, y compris Judas, hein, qui part aussi avec le pouvoir de chasser les démons, de guérir. Et puis Jésus leur donne cette mission, aller prêcher et dites. Hein. C'est intéressant de considérer que Jésus dit ce qu'il faut prêcher. Hein. Il ne dit pas aller prêcher, il dit aller prêcher et dites. Et il donne le contenu de la prédication, il dit au verset 7, « Le royaume des cieux est proche », bien sûr, avec tout le développement qui va avec. Et puis, il leur dit comment il faut le faire, quelle doit être leur attitude quand ils sont reçus ou pas reçus dans les maisons. Et puis, il dit ici au verset 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents ». En général, on fait attention à ce que les loups ne viennent pas parmi les brebis. Les avertissements, c'est souvent attention à ce que des loups ne rentrent pas dans la bergerie. Mais ici, Dieu dit qu'il envoie les brebis au milieu des loups. Et donc, quand il envoie ses disciples, il dit « Je vous envoie comme des brebis là où il y a des loups ». Et je crois que c'est toujours la même chose encore aujourd'hui, n'est-ce pas, lorsque l'enfant de Dieu vit dans le monde, quand il va pour prêcher la parole, il est comme une brebis, c'est ce que Jésus dit, au milieu des loups. Il doit être aussi prudent que les serpents et simple que les colombes. Et puis il dit verset 17, « Mettez-vous en garde contre les hommes ». Il leur annonce maintenant tout ce qui leur arrivera. Et il dit, ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans les synagogues, vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant les rois, pour servir de témoignage aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de ce, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Voilà la promesse qu'il leur fait, pas s'inquiéter de ce qu'ils vont dire. Ça c'est, et la promesse, elle est donnée ici dans le contexte de la persécution. Il y a des gens qui disent, oh, je n'ai pas besoin de préparer un message, j'arrive, le Saint-Esprit va nous dire directement ce que je dois dire, etc. Une fois que je suis, ça c'est le contexte de la persécution. L'apôtre Paul disait à Timothée de travailler, n'est-ce pas, de s'appliquer, etc. Mais ici, quand on est dans des circonstances particulièrement difficiles de persécution, eh bien Dieu donne cette promesse à ses disciples. Et il dit, il montre toutes les souffrances qui vont peut-être être, qui vont certainement être les leurs ici. Et puis, on arrive au verset 24, et c'est là où je voudrais m'arrêter ce matin, verset 24 à verset 31 que nous allons lire. Il parle encore aux disciples et il leur donne, il leur révèle quelques réalités que le disciple doit avoir en tête. Quand il est dans sa mission de porter l'évangile, ce qu'il doit avoir en tête. Et nous allons lire ces versets 24 à 31. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison, ainsi les gens de sa maison. Verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Jusqu'ici, la lecture. Si on lit bien ce passage, on voit que par trois fois, verset 26, verset 28 et verset 31, Jésus dit « Ne craignez donc point, ne craignez pas et ne craignez donc point. » Donc on pourrait ici comprendre qu'il exhorte ses disciples à ne pas avoir peur. Il les envoie, il leur dit les difficultés qui les attendent, mais en même temps il leur dit « Vous n'avez pas à avoir peur. » Et quelque part, il leur donne ici quelques antidotes, j'ose dire, contre la peur. La peur liée ici, bien sûr, à la mission à laquelle Jésus, la mission qui leur est confiée. Mais en général, on pourrait dire aussi toutes sortes de peurs. Et je crois que ça peut être encourageant pour nous ce matin qui démarrons cette année avec, comme nous l'avons quitté, quoi. C'est-à-dire avec la peur peut-être, avec cette situation particulière que nous vivons. Hein. Et j'écoutais un orateur qui disait que quelqu'un, je crois que c'est Albert Camus, qui avait dit que le XXe siècle est le siècle de la peur. Hein. On a toutes sortes de peurs. Et il arrive que le chrétien aussi ressente sa peur, cette peur, des peurs comme tous les autres le ressentent, mais particulièrement qu'il le ressente quand il doit en plus témoigner dans ce monde qui est opposé. Hein. Le monde est toujours opposé à la parole de Dieu. Alors comment est-ce que Jésus encourage ses disciples? J'ai noté ce message ce matin, le disciple de Christ doit vaincre les peurs. Le disciple de Christ doit vaincre ou expulser les peurs, toutes sortes de peurs. Alors comment est-ce que Jésus les encourage? Premièrement, je crois qu'il leur dit ceci, il ne doit pas s'attendre pour vaincre la peur, il ne faut pas s'attendre à une bonne réception mais à l'opposition. Le disciple ne doit pas s'attendre à être accueilli favorablement, mais il doit s'attendre à de l'opposition. Verset 24, peut-être tu peux nous afficher versets 24 et 25, comme ça on le laisse, chaque section de verset affiché. Donc Matthieu chapitre 10, versets 24 et 25, je lis, il dit ici, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? » Pour le croyant, certainement l'évangile est un message merveilleux, j'espère. C'est la bonne nouvelle. Et vous trouvez certainement tous les aspects de l'évangile magnifiques. Je suis certain. En tout cas, j'espère. C'est un beau message. c'est quand on écoute le message de l'Évangile, et c'est le message le plus merveilleux qu'il soit donné d'entendre. Et certainement les disciples de Christ, à ce moment-là, étaient eux aussi tout grisés, rappelez-vous, quand ils sont partis et puis qu'ils sont revenus, ils ont dit, même les démons nous sont soumis, ils avaient une espèce de joie débordante. Ils étaient grisés, on pourrait dire, par le succès qu'ils ont rencontré, par les victoires qu'ils ont remportées dans leur ministère. Mais quand on analyse bien la réalité, si c'est une bonne nouvelle pour du point de vue des croyants, on trouve que c'est une bonne nouvelle, du point de vue du monde, ça n'est pas du tout la même chose. Et parfois, quand on vient avec quelque chose qui est merveilleux, on voudrait s'attendre à ce que les autres aussi trouvent ça merveilleux. On vient d'un certain pays, et puis on a certaines habitudes culinaires. On trouve tel plat excellent, n'est-ce pas? Ça, c'est super bon. Okay? Et on dit à quelqu'un, goûte, tu vas voir, qui est étranger, tu dis, goûte, tu vas voir, ça, c'est super bon. Et on s'attend à ce que... Et puis, souvent, c'est pas le cas. C'est pas le cas, hein? D'accord? On ne peut pas, on n'a pas la même appréciation des deux côtés. Et bien, concernant l'Évangile, et bien, Jésus dit à ses disciples, c'est la même chose. Et Jésus les avertit qu'en réalité, le message de l'Évangile ne va pas rencontrer un bon accueil et qu'eux non plus ne vont pas rencontrer un bon accueil, mais de l'opposition. Et qu'il ne fallait pas s'attendre à être accueillis chaleureusement. Tout ce qu'on a lu, qu'on a regardé rapidement auparavant dans les premiers versets, montre toutes les difficultés qui vont les attendre. Mais Jésus le dit d'une manière particulière. Il dit ici, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il ne faut pas s'attendre à être reçu mieux que Jésus a été reçu. Il faut vous mettre cela, c'est une réalité qu'il vous faut embrasser, dit Jésus à ses disciples. Et il montre qu'on est reçu, on est bien reçu nulle part, ni devant les tribunaux, ni dans les synagogues. Il dit même jusque dans la propre famille. Écoutez ce qu'il dit au verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir à cause de l'Évangile. Alors nous ne connaissons peut-être pas des situations comme cela, mais il y a des pays où cela existe encore aujourd'hui et où, à cause de la foi chrétienne, eh bien, des familles dénoncent, n'est-ce pas, d'autres membres de la famille qui se sont tournés vers Christ. Et versets 34 à 36, si vous regardez les versets 34 à 36, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. D'accord? Il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. D'ailleurs, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, dit Jésus. Donc il montre que même dans la propre famille, il ne faut pas s'attendre à être reçu, mais à rencontrer bien souvent de l'opposition. Dès lors qu'on veut vivre véritablement en disciple de Christ, il ne faut pas s'attendre à la bonne disposition en face, mais plutôt à l'opposition. Parce que le disciple n'est pas plus que le maître. Et ça, c'est quelque chose que Jésus a dit plusieurs fois. On trouve ça en Luc 6, 40, en Jean 13, 16 et en Jean 15, 20. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Les disciples ne doivent pas s'attendre à être mieux traités donc, que le maître. Et ce à quoi il doit s'attendre, c'est d'être traité comme son maître a été traité. C'est ce que Jésus dit au verset 25. Parce que le disciple, il n'est pas plus que le maître. Alors parfois, on fait des efforts, n'est-ce pas, pour être mieux accueilli. Et on peut être tenté d'altérer un peu le message de l'Évangile pour le rendre plus acceptable, n'est-ce pas? Et être ainsi un peu mieux accepté, n'est-ce pas? Mais Jésus dit que le disciple, le véritable disciple, ne sera pas mieux accueilli que lui il a été. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, c'est un nom d'origine araméenne qui signifie le seigneur des mouches ou le seigneur des ordures, hein. C'est ça que ça veut dire, hein. Seigneur du fumier. Et les Juifs employaient ce nom-là pour désigner en général Satan, hein. Par exemple, en Marc 3, 22, il dit, et les scribes qui étaient descendus à Jérusalem dirent, il est possédé, il parle de Jésus, hein, il est possédé de Belzébul, et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et Jésus dit, s'ils ont dit ça du fils de l'homme, du maître, combien plus diront-ils ces choses de ses disciples? Donc il suffit de se souvenir, dit-il, comment Jésus a été traité pour savoir avec quel égard le disciple le sera. Et donc pour lutter contre la peur qui pouvait paralyser les disciples dans le témoignage, eh bien Jésus leur dit, il faut s'attendre à l'opposition. L'Évangile, et si on s'attend à quelque chose, eh bien je crois qu'on est mieux préparé, on est moins surpris. Ne soyez pas surpris, attendez-vous à cela. Donc l'Évangile est pour nous certes la meilleure des nouvelles, mais elle ne sera pas reçue de cette manière-là par ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Il y a un évêque anglican du 19e siècle, s'appelait Ryle, il dit ceci, il dit, si nous laissons le monde tranquille, il nous laissera probablement tranquille. Mais si nous essayons de lui faire du bien spirituel, de lui apporter l'Évangile, il dit, eh bien, il nous détestera comme il a détesté notre maître. C'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Porter l'Évangile, c'est faire du bien spirituel. C'est chercher le bien spirituel. Eh bien, cet auteur dit quelque chose qui est juste, c'est ce que Jésus dit, hein. Il dit, si nous laissons le monde nous laissera tranquille. Mais si nous essayons de lui apporter la bonne nouvelle, telle que Jésus nous demande de le faire, eh bien, il nous détestera comme il a détesté notre maître. Alors certes, nous ne connaissons pas la persécution. En fait, l'apôtre Paul disait que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés, hein, dans 2 Timothée 3:12. Nous ne connaissons pas la persécution ouverte, n'est-ce pas? Mais on peut connaître vraiment le rejet, on est parfois taxé d'obscurantiste, on est taxé de démodé, de réactionnaire, d'esprit étroit. Et celui qui marche en disciple de Christ n'aura pas plus de succès que Christ a eu lui-même, même encore aujourd'hui. Et donc le vrai disciple ne doit pas chercher à être mieux vu. Ce que Jésus dit ici. S'il dit « attendez-vous », ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à être mieux vu que Jésus a été vu. Il ne faut pas chercher à altérer le message pour être mieux reçu, à arrondir les angles, à cacher. Maintenant, il y a des choses qu'on ne dit plus parce qu'on a peur de choquer les gens. Non, il dit « il faut que le disciple de Christ prêche la parole comme elle doit être prêchée ». Si on est bien accueilli, toujours accueilli à bras ouverts quand on présente l'Évangile, il faut se poser une question sur l'Évangile que l'on prêche. Il faut se poser des questions sur l'Évangile que l'on prêche. Peut-être on dit des choses que les gens ont envie d'entendre, des choses qui sont vraies, mais l'Évangile est résolument conflictuel parce qu'il va contre ce que l'homme est au plus profond de lui-même. D'accord? Il vient le confronter dans ce qu'il est au plus profond de lui-même. D'accord. Jésus avait dit à ses disciples, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, il ne vous aime pas. D'accord. Donc il faut considérer cela. Jésus dit donc à ses disciples, pour les encourager à témoigner avec courage et à vaincre la peur, qu'ils ne doivent pas s'attendre à être bien reçus, mais doivent s'attendre plutôt à l'opposition. Deuxième chose, deuxième vérité, il dit que la vérité de l'Évangile a vocation à être annoncée. Vous mettez versets 26 et 27, la vérité de l'Évangile a vocation à être, je vais rajouter, publiquement annoncée. La vérité de l'Évangile a vocation à être publiquement annoncé. Versets 26 et 27. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Donc une autre réalité à laquelle Jésus soumet ses disciples pour les encourager dans leur témoignage, c'est que la vérité doit être publiquement annoncée. Et elle le sera, parce que le principe qu'il énonce, c'est que il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Donc la vocation de la vérité même, c'est d'être manifestée et d'être révélée. Et le verset 27 vient éclairer ce que Jésus dit au verset 26. Il dit que ce qui est caché et secret, c'est ce que Jésus a dit en privé à ses disciples. Il dit, je vous ai dit en ténèbres, dans les ténèbres, c'est-à-dire de manière cachée, les choses. Je vous l'ai dit à l'oreille. Rappelez-vous, parfois Jésus parlait souvent en parabole. Les autres ne comprenaient pas. Et puis il disait à ses disciples, mais à vous, il vous a été donné de comprendre ces choses et pas aux autres. Il leur parlait de manière privée, mais il les envoie maintenant et il leur dit ce que je vous ai dit de manière privée, maintenant il faut aller le crier sur les toits. Il y a un temps où tout sera, n'est-ce pas, tout doit être révélé. Paul, par exemple, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que je vienne, le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Mais Dieu mettra à un moment donné toutes choses en lumière. La vérité est amenée à être révélée. Et concernant l'Évangile, qui est la vérité, eh bien Jésus dit cette vérité a vocation à être annoncée, révélée, manifestée. Elle ne doit pas rester cachée. On n'allume pas, comme disait-il, une lampe pour la laisser sous le boisseau. Elle doit éclairer. C'est ça la vocation de la vérité. Donc Jésus dit, je vous ai annoncé des choses, ce que je vous ai dit, les paroles que je vous ai dites sont la vérité. Et la vocation même de ce message-là, c'est qu'il doit être annoncé. Donc n'ayez pas peur, parce que le message même a cette vocation, même si les gens le rejettent. Et donc le disciple de Christ doit se nourrir de cette pensée que même si il n'est pas bien accueilli, même si tout n'est pas compris, okay, mais tout doit être annoncé. D'accord ? Tout doit être annoncé. Même si les gens en face, on dit, oh, mais ça ne sert à rien de dire, les gens en face, ils ont une telle méconnaissance des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Jésus dit que le message doit être annoncé. Les disciples n'ont pas toujours compris ce que Jésus leur a dit, hein. Parfois, il a fallu attendre la résurrection de Jésus-Christ pour que des choses deviennent plus claires. D'accord ? Bon, les choses sont devenues moins cachées pour eux. Ils n'ont pas toujours compris ce que Jésus leur avait dit. Je lis par exemple en Luc 30, j'ai pas mis la bonne référence en tout cas. Il dit, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir et le troisième jour il ressuscitera. Et puis il dit, mais ils ne comprirent rien de cela. C'était pour eux un langage caché. Des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Car pourtant, Jésus leur a dit, hein, ils sont restés, ils ne comprenaient rien du tout. Rien du tout. Et beaucoup de choses sont devenues plus claires lorsque Jésus, par exemple, a été ressuscité ou lorsque le Seigneur les a éclairés sur ces paroles-là. D'accord. Et c'est ainsi que le disciple doit aussi travailler envers le monde, même si le monde ne comprend pas le message à vocation à être annoncé, il doit l'annoncer. Et un jour, les choses ne vont pas être cachées du tout, elles vont être complètement révélées. Et ce que Jésus souligne aussi, je pense ici avec ses disciples, c'est que, eh bien, cette vérité-là, d'accord, elle va éclater un jour, au grand jour pour tout le monde. Nul, plus personne ne pourra l'ignorer. Et il vaut mieux donc l'annoncer dès maintenant. Dès maintenant. Parce que même si elle paraît ne pas être la vérité aux yeux de beaucoup, un jour elle sera révélée véritablement comme la vérité. Parce qu'aucune vérité ne reste cachée. Elle a vocation à être révélée ici. Donc la vérité de l'évangile, si elle est annoncée de manière privée aux disciples, elle doit être proclamée de manière ouvertement publique. Et ça, c'est un encouragement que Dieu donne à ses disciples parce que c'est une crainte que l'on peut avoir d'annoncer publiquement la vérité. On nous fait croire maintenant que la foi doit être quelque chose de privé. Privé. Tu vas au travail, tu es un chrétien, tu oublies que tu es un chrétien quand tu rentres quand tu sors de chez toi. Tes convictions, ce que tu es, tu les gardes pour toi. Mais Jésus dit que la vérité de l'évangile est quelque chose de résolument public, qui doit être annoncé de manière publique. Et il dit que ce que je vous ai dit à l'oreille, c'est-à-dire ce que l'on a de Dieu dans le privé, il faut monter jusque sur les toits. Et à l'époque, les toits étaient... Quelqu'un faisait remarquer que les toits étaient très plats et c'était un lieu où on pouvait parler et être entendu de beaucoup de personnes. D'accord ? Il dit qu'il faut le crier sur les toits. Donc ce que l'on a dans la relation privée, que l'on apprend de Dieu, l'évangile que l'on embrasse, que l'on médite, que l'on connaît dans la sphère privée, doit être annoncé dans la sphère publique. Nulle part dans l'Écriture on voit que l'évangile est quelque chose qui doit être maintenu dans le secret et dans le privé. Alors, c'est un encouragement pour nous à ne pas nous laisser timorer, hein, dans ce temps où on dit que la foi, l'évangile est quelque chose de privé. D'accord. Ou qu'on doit adapter le message de l'évangile pour le rendre compatible à d'autres valeurs. Que ce soit compatible aux valeurs de. D'accord. On respecte les autorités parce que l'évangile nous demande de respecter, n'est-ce pas, les autorités. Et heureusement qu'on proclame cette vérité, sans quoi on ne respecterait pas, mais l'Évangile nous commande de respecter les autorités. Mais Dieu nous demande que l'Évangile soit propagé. C'est le message, vous avez vu, allez et dites, a dit Jésus à ses disciples. Et c'est la même chose qu'il nous dit encore aujourd'hui. Et donc nous devons être encouragés par cette réalité que la vérité de l'Évangile a vocation même à être annoncée, et qu'elle est... Il est contre nature que de retenir le message sans l'annoncer. Cette bonne nouvelle du royaume, disait Jésus en Matthieu 24, 14, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors la fin viendra. C'est la vocation. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier afin de servir de témoignage à toutes les nations. Alors la fin viendra. Donc le témoignage consiste à écouter le Seigneur en privé, à ne rien dire qui soit contraire à ce qu'il nous a dit de dire, et puis à le dire de manière ouverte, le proclamer de manière ouverte. Troisième réalité que Jésus donne à ses disciples pour les encourager à vaincre la peur, c'est qu'ils doivent apprendre à craindre Dieu plus que tout. Apprendre à craindre Dieu plus que tout. Verset 28. Je vais mettre le verset 28, s'il te plaît. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. C'est une vérité qui est très importante ici. Déjà, elle souligne une réalité, c'est que l'être humain, c'est plus qu'un corps. L'être humain, c'est plus qu'un corps. Il y a des gens qui pensent, une fois qu'on est mort, tout est fini, etc. Non, pas du tout. Jésus souligne ici que l'on peut perdre la vie et ne pas perdre autre chose. Ça veut dire que la constitution de l'homme, c'est plus qu'un corps. L'homme est fait composé d'une partie, on pourrait dire, matérielle et d'une nature immatérielle. C'est ce qu'on lit dans l'Écriture. Âme et corps. Alors, âme et esprit, je crois que c'est la même chose parce que souvent on trouve les deux en même temps. Il y a deux composantes, une composante matérielle, une composante immatérielle. Et l'Écriture le souligne et c'est ce que l'on voit dans ce passage. Alors, on ne va pas faire une étude là-dessus, mais c'est ce qu'on voit dans ce passage-là. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28. N'est-ce pas ? Et Jésus souligne cette réalité. Il dit, attention, vous êtes plus qu'un corps. Perdre la vie, ce n'est pas être perdu. Okay. Alors bien sûr, il y a peut-être des menaces qui pèsent, il y a ses disciples qui vont peser sur votre corps. Je vous ai même dit que dans la propre famille, on ira jusqu'à mettre à mort parfois. Mais il dit, n'oubliez pas une chose. Il ne faut pas craindre parce que vous risquez la mort physique. Parce que ceux qui peuvent atteindre le corps ne peuvent atteindre que le corps. Et l'homme, c'est plus qu'un corps. C'est un corps et une âme. Et qu'il y a plus à préserver que le corps ou la vie physique. Il y a à préserver la vie de l'âme, le salut de l'âme. C'est ce qu'il est en train de leur dire ici. Il peut arriver au corps quelque chose qui n'affecte pas l'âme. Le corps peut être tué sans que l'âme le soit ici. D'accord ? Et rappelez-vous ce que dans Apocalypse chapitre 6, l'apôtre Jean dans sa vision, Apocalypse 6, dans sa vision, il dit ceci, il dit, verset 9, il dit « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Ici, ils étaient morts physiquement, mais il dit, mais j'ai vu leurs âmes quand j'ai regardé ici. Donc Jésus dit ici à ses disciples, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Autrement dit, ici, il dit, il ne faut pas avoir la crainte de ceux qui vont faire des menaces, ceux qui peuvent tuer les hommes, que ce soit la maladie, le virus, que vous voulez. Il ne faut pas avoir peur de ces choses. D'accord ? Donc là, c'est vrai que le contexte, c'est celui du témoignage, mais on peut l'élargir pour nous. Maintenant, ce que tout le monde on a peur. J'entendais quelqu'un qui disait, je ne souhaite pas une bonne année 2021, mais je souhaite une meilleure année. D'accord ? Ça veut dire. L'année a été estimée tellement mauvaise qu'on espère que ça sera mieux. Et puis, il y en a un autre qui a dit, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrête de nous gouverner par la peur. Nous faire peur. On a des craintes. Les gens angoissent. On a peur de perdre la vie. La vie, c'est ce que l'on a de plus précieux, n'est-ce pas? C'est ce que l'on a de plus précieux. Mais Jésus dit, il y a plus que la vie du corps. Il y a celle de l'âme. Et donc, il dit une chose ici. Il dit de ne pas craindre ceux qui peuvent causer la mort, peuvent tuer le corps et puis ne rien faire à l'âme, mais de craindre plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps ou dans la géhenne. Okay? C'est ce qu'on a appelé l'enfer. C'est un lieu ici qui était au sud de Jérusalem, et qui vient d'un mot qui veut dire ici « Géhenne », d'accord ? Et Donc le nom c'est un ravin qui était au sud-ouest de Jérusalem, la vallée d'Imon, ça voulait dire, hein, d'Imon si vous voulez, était utilisé comme, c'était un endroit où on jetait des immondices. Hein. Alors on trouve dans l'Ancien Testament, hein, beaucoup, hein, il y a un roi qui avait souillé ce lieu-là, etc. C'était le lieu où étaient offerts parfois les sacrifices aux païens, avec Moloch et les dieux Moloch, etc. Et puis c'est devenu un endroit où on brûlait des détritus au sud de Jérusalem. Et c'est devenu vraiment le symbole du lieu de punition, comme il est dit dans ce texte-là ici, hein, où on trouve encore ça dans Matthieu chapitre 23, verset 33, par exemple, regardez Matthieu 23, 33. Matthieu 23, 33, où il dit « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la Géhenne ?» C'est un lieu de châtiment, souvent caractérisé parfois par le feu qui ne s'éteint point, le feu de la Géhenne, par exemple. En Marc 9, 42, 44, je vous lis, il dit « Si quelqu'un scandalisait l'un de ses plus petits, qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on le mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, il explique, dans le feu qui ne s'éteint point. Dans le feu qui ne s'éteint point. On peut lire aussi Apocalypse 19, 3, Apocalypse 20, 10, Matthieu 25, 41, beaucoup de versets qui traitent cela. Donc Jésus parle de quoi ici? Il dit qu'il y a pire que la mort du corps. Il y a le fait de perdre l'être tout entier, éternellement, dans la géhenne, dans un châtiment, ici, qu'on pourrait développer après, éternel et conscient, hein, que subissent ceux qui auront toute leur vie refusé de placer leur confiance en Jésus-Christ. Donc il dit, il y a quelqu'un qui est capable, qui a le pouvoir de perdition. Il dit, faut pas craindre ceux qui ont le pouvoir de, voilà, de limiter, somme toute, de porter atteinte à la vie physique. Il dit, il faut craindre celui qui a le pouvoir de perdition. Total sur l'homme, sur l'être humain. Et ce n'est pas Satan dont il parle ici. Il parle de Dieu. Dieu a le pouvoir de perdition, de mettre et le corps et l'âme, le corps et l'âme tout entier, dans le châtiment éternel. C'est lui qu'il faut craindre. Donc quand vous allez témoigner, il dit à ses disciples, voilà comment vous devez vaincre la peur. C'est que oui, peut-être des choses vont arriver au corps. Mais ces personnes-là qu'il faut craindre, n'est-ce pas? Il faut craindre celui qui a le pouvoir de jeter et le corps et l'âme dans la géhenne. On pourrait penser à Jean-Baptiste, qu'Hérode a décapité. On pourrait penser au frère de Jean qu'Hérode a transpercé avec une épée, Étienne qui a été lapidé, autant de serviteurs de Dieu qui ont perdu leur vie, n'est-ce pas? Et l'histoire de l'Église regorge de milliers, peut-être de millions de personnes qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont perdu leur vie à cause de leur foi. Et Jésus dit, certes, il y a possibilité que le sang de l'homme soit versé par l'homme, et on peut le voir encore de nos jours. Mais il dit, même cela, il ne faut pas craindre ces personnes. Il faut craindre celui qui a ce pouvoir d'envoyer et le corps et l'âme dans la géhenne. Dieu disait plutôt dans Ézéchiel 18 qu'il est celui à qui toutes les âmes appartiennent. L'âme du Père comme l'âme du Fils sont à moi, dit Jésus. Toutes les âmes lui appartiennent, tous les êtres lui appartiennent. J'ai trouvé dans un commentaire cette histoire d'un réformateur qui s'appelait Hugh Latimer. Peut-être que vous avez entendu parler de lui, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'était l'une des figures les plus remarquables, dit-on, de la réforme en Angleterre, et il a été emprisonné sous le règne du roi Henri VIII. Et un jour, il prêchait, il a eu l'occasion de prêcher, et le roi était présent. Et alors qu'il allait s'apprêter à dire quelque chose, il s'est souvenu que le roi n'allait pas apprécier ce qu'il allait dire. C'était de sortir de prison, le roi n'allait pas apprécier ce qu'il allait dire. Et on raconte qu'il s'est mis à son pupitre et puis qu'il s'est parlé à lui-même. Il a dit, Latimer, Latimer, faites attention à ce que vous dites. Le roi est ici. Puis après un instant de silence, il a dit, Latimer, Latimer, faites attention à ce que vous n'allez pas dire. Le roi des rois est ici. Et il a soutenu, bien sûr, la vérité qu'il aurait dû annoncer. D'accord. Eh bien, on raconte que quelques temps après, lorsque le roi a changé bien, cet homme a été brûlé vif à cause de sa foi, n'est-ce pas? Il a perdu la vie pour avoir dit la vérité. Mais il n'a pas craint ceux qui pouvaient tuer le corps. Il a craint en disant la vérité. Celui qui pouvait et mettre l'âme et le corps dans la géhenne. C'est ce qu'on dit comme témoignage de John Knox au XVIe siècle aussi. Il dit qu'en enterrant les gens qu'il enterrait, on dit « Voici celui qui craignait tellement Dieu qu'il n'a jamais craint le visage d'aucun homme. » En fait, ce que Jésus dit ici à ses disciples, c'est cela. Il dit, si vous craignez celui que vous devez craindre, vous n'aurez pas crainte des autres. C'est-à-dire, le fait qu'on craigne les hommes, c'est qu'on ne craint pas Dieu, en fait. Mais si on a une crainte qui est bien placée, si on a peur de la bonne personne, dans la crainte ici, il y a une notion de peur, hein, souvent on place ça par le mot respect, mais ici, quand il dit de craindre Dieu, il y a bien sûr le respect, mais il y a aussi une notion de peur qui est, d'accord ? De celui qui a tout pouvoir. Il dit, si on craint, notre crainte est bien placée, eh bien, elle va chasser d'autres types de craintes. N'est-ce pas? On dit souvent qu'un train peut en cacher un autre, et on peut dire qu'une crainte peut en cacher, peut en chasser peut-être même d'autres. Et puis, dernier point que je voudrais souligner, après avoir vu les trois premiers, c'est un point par lequel Jésus encourage aussi ses disciples. Il leur met en face la réalité de la parfaite providence du Père. Verset 29 et verset 31, il dit, « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont comptés, sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. » Alors Jésus avait dit à ses disciples qu'ils ne doivent pas s'attendre à être bien reçus, doivent s'attendre à l'opposition. Il leur a montré qu'il ne faut pas avoir peur parce que la vérité a vocation à être annoncée. Il leur a dit aussi, ce qu'on vient de voir juste auparavant, d'apprendre à craindre Dieu plutôt que toute autre chose. Et maintenant, comme encouragement, il leur dit de considérer la parfaite providence du Père. Qu'est-ce que la providence de Dieu ? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la providence, quand on parle de providence ici. La providence, dans le dictionnaire Larousse, il dit la providence, c'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assigné. Mais j'ai lu dans la question 11 du catéchisme de Westminster, ils le disent ainsi, quels sont les actes de la providence de Dieu ? Eh bien, les actes de la providence de Dieu consistent en ce que, avec une suprême sainteté, sagesse et puissance, il conserve toutes ses créatures et dirige toutes leurs actions. Et c'est ça que Jésus dit ici à ses disciples. Il dit, ne vend-on pas deux passereaux. C'est quoi un passereau? C'est un moineau, hein. Vous avez déjà vu les moineaux? J'ai regardé hier, je me suis dit, bon, c'est un tout petit truc comme ça. Hein, c'est insignifiant. D'accord? Quand un oiseau est écrasé sous la route. Il n'y a que les tout petits enfants qui disent ouh, d'accord, mais vous passez, vous faites votre chemin. Hein. Ça ne vaut pas grand-chose, ça n'a pas une grande valeur marchande. C'est ce que Jésus dit ici, n'est-ce pas? C'est rien. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais il n'en tombe aucun à terre sans la volonté de votre Père. Vous savez, imaginez ça quand même. Quand vous passez dans la rue, vous voyez un moineau tomber par terre, ou sautiller, parfois le terme c'est aussi sautiller, vous dites que Dieu est derrière cela, qu'il ça ne s'est pas fait sans la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus nous pousse à croire ici. Est-ce que nous croyons cela? Il dit, vous avez peur. Je vais vous dire pourquoi il ne faut pas avoir peur. Parce que vous voyez le moineau là, qui vaut rien sur la place du marché. Eh bien, quand il tombe, c'est moi qui ai permis qu'il tombe. Et il ne tomberait pas si je ne l'avais pas permis. Ce que Dieu dit, il parle de la providence de Dieu. Dieu a sa main dans toute chose. Il n'y a absolument rien qui se passe qui ne soit sous le contrôle de Dieu. Absolument rien. Dans toute l'histoire du monde, absolument rien. Prenez ce que vous voulez dans ce que les hommes font, soit bien, soit mal. Joseph a dit quoi à ses frères, rappelez-vous? Il a dit à ses frères ceci, j'ai noté. Il a dit, quand ses frères l'ont vendu, ils ont médité comment ils allaient le vendre. Ils ont vu arriver, ils ont réfléchi, ils ont mis au point leur stratagème. Ça venait profondément de leur propre cœur. Ils l'ont jeté dans une citerne, après ils l'ont vendu pour avoir de l'argent. D'accord? Et cet homme a été loin de sa famille, il est en prison, il a été accusé de fausseté, de mensonge. Et quand des années plus tard, il retrouve ses frères, qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Il dit ceci, Genèse 45, il dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et puis il ajoute au verset 7 et 5, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Vous m'avez vendu. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Il dit, ce n'est donc point vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. C'est ça qu'on appelle la providence de Dieu. Dieu agit dans tout ce qui arrive au monde entier, dans le monde entier, et particulièrement encore dans la vie de ses enfants. Particulièrement dans la vie de ses enfants. Il n'y a absolument rien qui échappe, rien. Et il faut croire cela, parce que si on ne croit pas cela, on est à la merci de toutes les peurs. On est à la merci de toutes les peurs. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident dans ce qui arrive aux gens. Écoutez un orateur qui disait ceci, je n'avais pas fait attention à ça, mais dans Exode, chapitre 21, verset 13, vous savez, quand Moïse donne les lois au peuple, les lois civiles, à un moment donné, il dit, voilà comment on va traiter celui qui a tué un homme volontairement. Et puis, à un moment donné, il dit, si quelqu'un fait quelque chose, mais que ça ne soit pas prémédité, c'est un accident. Hein, c'est comme manier une hache, et puis après, le manche de la hache tombe, et puis ça tue quelqu'un. Il dit ceci, il dit, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche, c'est-à-dire s'il n'a pas fait de manière intentionnelle, et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il est mort accidentellement, mais Moïse dit, mais c'est Dieu qui l'a fait tomber sous la main de cet homme-là. Pour cet homme, c'est un accident. Mais du point de vue de Dieu, c'est dirigé. C'est ça qu'il est en train de dire. Dieu l'a fait tomber sous sa main. Et donc, il n'y a absolument pas d'accident dans ce qui arrive. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, même les plus insignifiante chose, comme un oiseau, Dieu a sa main dedans. Imaginez à quel point il a sa main dans tout ce qui vous concerne. Vous n'avez donc pas besoin de craindre. Parce qu'il connaît même tous les cheveux de votre tête. Qui c'est qui connaît l'homme cheveux qu'il a sur la tête? Mais il n'a pas besoin de connaître, il n'y a pas grand-chose. Hein? D'accord. Merci. Mais bon, mais ceux qui... Mais personne ne compte ses cheveux, hein, n'est-ce pas? On fait tout, on les coiffe, on les arrange, etc. Mais vous ne comptez pas vos cheveux sur votre tête. Si quelqu'un vous disait, tous les matins je compte mes cheveux, vous auriez dit, mais tu es fou, tu n'as rien à faire. C'est insignifiant de compter les cheveux sous la tête. Eh bien, c'est insignifiant pour vous. Eh bien, sachez, dit Jésus, que Dieu sait combien vous avez sur votre tête. Donc imaginez, si ce qui est insignifiant pour vous, il le sait, imaginez ce qui a de l'importance, combien il est derrière. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Comment Dieu prend soin de vous. Dieu exerce une pleine providence en tout ce qui vous concerne. Et je termine en disant ceci, il dit que c'est la providence du Père. Il ne dit pas que c'est la providence de Dieu, il ne dit pas ici, je lis le verset, qu'il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de Dieu, ce qui est vrai, mais il dit sans la volonté de votre Père. C'est pas seulement le Dieu souverain, c'est pas seulement le Dieu omniscient, c'est pas seulement le Dieu providentiel, c'est pas seulement le Dieu omnipotent, c'est le Dieu qui est votre Père. C'est-à-dire avec lequel vous êtes dans une relation particulière, par Jésus-Christ. Parce que c'est par Jésus-Christ, n'est-ce pas, qu'on devient enfant de Dieu. Dieu est votre Père qui est aux cieux. Le chrétien peut s'adresser à Dieu en tant que Père sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. Jean 20, 17 exprime cette vérité-là. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc s'il dit que Dieu est votre Père, s'il dit que ils sont des chrétiens. Pour avoir Dieu comme Père, il faut avoir Jésus comme frère. Il faut avoir placé sa confiance en Jésus-Christ. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Ah, bien sûr, il est le Créateur de tous les hommes. Mais il n'a pas une relation filiale de Père à Fils avec tous les hommes. Il l'a seulement qu'avec ceux qui ont en eux l'Esprit de Dieu et qui ont reçu Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Il dit... Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », ce qui veut dire « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est la chose la plus réconfortante qui soit. Le Dieu qui créa tout l'univers, le Dieu qui a le pouvoir de perdition, qui peut envoyer l'âme et le corps en enfer, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu qui exerce une pleine souveraineté sur toutes choses, le Dieu qui pour lequel même un oiseau, d'accord, ne tombe sans sa volonté. Ce Dieu-là, dit Jésus, il est votre Père. Alors, n'ayez pas peur, il ne vous arrivera absolument rien qui soit sans sa volonté. Dieu n'est pas simplement spectateur, il n'est pas là pour essayer d'arranger vite fait les malheurs qui nous arrivent, non! Il dit que ce qui arrive, c'est qu'il a coordonné. Il les a fait travailler ensemble pour qu'elles arrivent. Sinon, elles n'arrivent pas. Si elles arrivent, c'est que c'est sa volonté. Voilà ce qui est propre à encourager l'enfant de Dieu. Chers frères et sœurs, je termine en disant, voilà, si nous disons que nous sommes des disciples de Christ, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur, n'est-ce pas, d'après le passage que nous venons de lire, parce que nous devons nous attendre à être traités comme Jésus-Christ a été traité. Nous ne devons pas avoir peur parce que, eh bien, nous savons que la vérité, l'évangile que nous proclamons, c'est la vérité. que cette vérité a la vocation à être annoncée. Donc soyons courageux dans l'annonce de l'Évangile. Nous ne devons pas non plus avoir peur, parce que personne ne peut nous atteindre sans la volonté de Dieu. Il est souverain et le Dieu providentiel qui s'occupe de tous les détails de notre vie. Et nous ne devons pas non plus craindre ceux qui ont un pouvoir limité. Lorsque Pilate a dit à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou le pouvoir de te condamner ?» C'est vrai qu'il avait le pouvoir. Jésus lui a dit, « Il te serait donné, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. » Et nous pouvons dire la même chose. Personne n'a de pouvoir sur l'enfant de Dieu si cela ne lui a pas été donné par Dieu lui-même. Satan a pu atteindre Job parce que Dieu lui a donné la permission. Et Dieu est sage, et Dieu est saint, et Dieu est grand. Que son nom soit béni. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole qui nous encourage. Et nous te demandons que, dans cette année qui vient, que nous ne soyons pas dans la crainte ou dans la peur comme beaucoup, mais que nous méditions ta parole, qui nous réconforte. Nous te remercions parce que tu nous as donné, en Jésus-Christ, l'assurance que nous sommes gardés pour le salut prêt à être révélé. Nous te remercions parce que tu as fait de nous tes disciples. Donne-nous d'être courageux, Seigneur, d'obéir, d'être des disciples qui obéissent à ta parole, des disciples qui s'attendent à ne pas être mieux traités que tu l'as été, Seigneur, des disciples qui proclament profondément la vérité, des disciples qui ne craignent pas les pouvoirs qui sont limités. Et les disciples, Seigneur, qui croient en ta parfaite souveraineté, ta parfaite providence. Seigneur, que ces choses, nous puissions encore les méditer et qu'elles puissent agir dans nos cœurs. Nous te prions encore ce matin pour ceux et celles qui sont peut-être ici qui ne te connaissent pas. Nous te demandons de les attirer à toi et de faire d'eux tes enfants, que tu deviennes par ton esprit leur Père et qu'ils puissent avoir cette confiance que tu es celui, le seul, qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, mais le seul aussi qui peut sauver éternellement. Et tu l'as montré en envoyant Jésus-Christ, ton Fils, ici-bas, pour mourir sur cette croix. Merci encore pour tout ce que tu nous accordes, et que nous puissions entendre ta voix et ne pas endurcir encore notre cœur. Agis pour la gloire de ton nom, nous te prions. Amen.